Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la BPI est heureuse de vous accueillir pour une deuxième année donc de notre cycle controverse. Et ce soir, nous allons nous intéresser à la question du droit d'auteur. Je vous rappelle que vous pouvez commenter la soirée en direct avec le mot dièse controverse 0 au singulier, controverse 05. Voilà, donc le cycle est fait en partenariat avec l'Atelier des médias sur RFI. Et je laisse la parole à Ziad Malouf qui va vous présenter la soirée.
Bonsoir, merci d'être là. Donc je m'appelle Ziad, je suis en charge de l'Atelier des médias, qui est une émission qui s'intéresse aux médias sur RFI. Internet va tuer le droit d'auteur? On aurait pu se poser la question. Internet va-t-il tuer le droit d'auteur? On pourrait même inverser la question. Le droit d'auteur va-t-il tuer Internet? C'est également une question légitime. C'est la première des controverses de 2016 et c'est peut-être une des plus emblématiques controverses de l'âge numérique. L'avenir de la création, de la circulation des idées est en jeu ici, l'avenir de nos sociétés, l'avenir des libertés, l'avenir de la culture. Comme souvent dans des combats, dans des questionnements aussi cruciaux, chaque camp, chaque vision est convaincu de lutter pour un futur meilleur. Et c'est d'autant plus difficile de se faire une idée et de départager ceux qui luttent pour la préservation des droits d'auteur et ceux qui luttent pour une ouverture des droits d'auteur ou une nouvelle conception des droits. Il y a un peu le même genre de phénomène dans l'univers du numérique avec ce qu'on appelle la neutralité du net. C'est aussi un questionnement. Et d'ailleurs, la neutralité du net est aussi un débat qui peut sembler très, très technique et qui parfois peut sembler rebutant, mais qui en fait est essentiel pour notre avenir. L'enjeu, justement, aujourd'hui, c'est de dépasser les apparences techniques pour tenter de saisir les grandes questions que pose la protection du droit d'auteur aujourd'hui ou sa remise en cause. On va donc parler probablement d'économie, de gagne-pain, d'intermédiaire, d'art, de création et certainement d'humanité. La question touche à tout ce qui a trait à la création et notre controverse aujourd'hui va s'intéresser quand même plus particulièrement à la création littéraire étant donné le profil de nos deux invités. Tous les contenus en plus ne sont pas touchés de la même manière par la numérisation du monde. Le cinéma, la musique, la radio, la télévision, enfin tous ces contenus ont des relations diverses avec la numérisation. Donc je ne sais pas si on va se parler surtout du livre, mais il y a des chances qu'on en parle beaucoup. Pour le déroulement de la soirée, c'est très simple. Donc ça, c'était l'introduction. Il va y avoir ensuite une prise de parole de chacun de nos invités. Je vais en profiter pour vous les présenter quand ils vont prendre la parole. Pendant une dizaine, quinzaine de minutes, ce sont des sortes de plaidoyers qui ont été préparés par chacun. Et on a tiré au sort un ordre. Donc je vais vous dire dans un instant qui va parler en premier et je vais le présenter. Ensuite, on va débattre d'une certaine manière, c'est-à-dire permettre que vous puissiez continuer à discuter ou peut-être répondre à des questions que je pourrais vous poser. Et enfin, donc ça va durer peut-être 25, 30, 40 minutes. Et enfin, on va laisser pas mal de temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous frappe, s'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, etc., n'hésitez pas à le noter, parce que souvent dans les périodes de questions, on commence un peu doucement et puis à la fin, on n'a plus le temps de prendre les questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à noter si vous voulez poser une question. On aura 25 minutes, ce qui veut dire que vers 20h15, 20h20, on aura terminé. J'espère que ça vous convient. Donc nous avons tiré au sort, je vous présente Thierry Crouzet qui va parler en premier. Thierry est écrivain, blogueur, penseur du numérique. Vous êtes aussi Thierry l'auteur de plusieurs romans, d'essais également. Essais parmi lesquels on peut distinguer une trilogie des connecteurs, je ne sais pas si on pourra en parler. Sur votre site internet, vous vous présentez comme un auteur expert de rien et également comme un archéogeek. C'est à vous de parler.
Bonjour, salut à tous. Je vais essayer de vous raconter un peu, je vais vous raconter ma vie et puis essayer de vous faire comprendre quelle est ma vision du droit d'auteur. Il faut, et c'est très important que je vous fasse comprendre de quel point je parle, quelle est ma position. Mes parents, mon père était pêcheur, ma mère était femme au foyer, elle s'occupait de faire marcher le business familial. Et mes parents ont eu une particularité, c'est qu'ils n'ont jamais souscrit le moindre crédit. C'est-à-dire quand ils ont voulu se construire une maison, ils ont attendu d'avoir l'argent pour le faire. Quand ils ont voulu acheter des voitures, ils ont attendu d'avoir l'argent pour le faire, etc. Donc il n'y a jamais eu de crédit. J'ai vécu dans un univers où on ne faisait pas crédit. Et moi, je n'ai jamais fait de crédit non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis jamais allé voir un banquier pour qu'il me fasse un crédit. Et chaque fois que j'ai gagné de l'argent, qu'est-ce que j'en ai fait ? Soit je l'ai dépensé pour me faire plaisir, mais ça n'a jamais très, vraiment flambé. Et je suis plutôt du style fourmi. C'est par rapport à la cigale. Hein. Donc j'ai eu tendance à accumuler. Et quand j'ai eu un peu d'argent, je me suis construit une maison. Et quand j'ai eu encore un peu d'argent après avoir construit ma maison, j'ai restauré la maison qu'avait construit mon arrière-grand-père pour faire des appartements que je loue. Et aujourd'hui, ces appartements, quelques petits appartements que je loue dans le sud de la France, c'est pas à Paris, hein, donc ça me rapporterait beaucoup plus ici. Ça me permet d'avoir ce que j'appelle un revenu de vie. J'ai de quoi vivre même si je ne vends pas mes livres. C'est très important que vous compreniez ça, parce qu'après, il faut pas qu'on me mon point de vue, il est peut-être lié au fait que je n'ai pas besoin de revenus en tant qu'auteur pour défendre mon point de vue. C'est très important par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, ce qui est important de savoir, maintenant on arrive au sujet de la controverse, cette maison que j'ai construite et les appartements que j'ai restaurés, j'ai pu le faire grâce à l'argent que j'ai gagné grâce au droit d'auteur. Donc, il faut bien faire la différence entre deux choses. Quand on parle du droit d'auteur, il y a les droits d'auteur que nous, en tant qu'auteur, on touche, on va dire à les 10% du prix de vente, et il y a le droit d'auteur en général qui est le contrat qu'on signe avec l'éditeur qui définit à qui appartient l'œuvre, comment on fait pour à qui elle appartient, comment on fait pour la rentabiliser, qui peut l'exploiter, etc. Donc là, je vais parler en même temps des droits d'auteur que nous, en tant qu'auteur, on touche et du droit d'auteur en général. C'est pas tout à fait la même chose, mais un inclut l'autre, etc. Donc j'ai gagné pas mal d'argent grâce au droit d'auteur. Donc je ne suis pas contre le droit d'auteur, parce que si je peux avoir la liberté que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au droit d'auteur. Et j'ai écrit des livres un peu particuliers pour gagner de l'argent. C'est dans les années 90, et notamment entre 97 et 2003, j'ai écrit des guides de vulgarisation sur Internet. C'est-à-dire j'ai écrit, c'était pas le pour les nuls, mais c'était l'équivalent. Et je vendais pas mal de livres, puisque je vendais à peu près 5000 exemplaires par an, ce qui est au jour d'aujourd'hui, c'est gigantesque, c'est plus que des best-sellers. Aujourd'hui, on dit qu'un livre qui fait 10 000 est largement un best-seller. Donc je vendais 100 000 livres par an, ce qui me rapportait assez d'argent pour me payer une maison et faire quelques économies que je n'ai pas dilapidées. Quand j'écrivais ces livres, il y a un livre très particulier que j'ai écrit qui s'appelait « Le guide des meilleurs sites web ». Le guide des meilleurs sites web, c'était simplement un annuaire des meilleurs sites. Et il était publié chez Microsoft Press, donc sous copyright classique, ce livre. Mais j'ai négocié avec Microsoft le droit d'en faire une version numérique. Donc j'avais le livre papier qui était en librairie, et on a fait une version en ligne dès 98. On avait le contenu du livre exactement reproduit en ligne. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout un militant du libre, de l'open source, etc. Je m'étais juste dit, puisque je fais ce livre en papier et qu'il est vite périmé, il faut que je rende un service au lecteur en le mettant à jour. Mais je rendais un service en même temps au lecteur qui avait acheté le livre et à ceux qui ne l'avaient pas acheté. Donc, d'une certaine façon, ce livre était distribué à ce qu'on appelle un Creative Commons. C'est-à-dire qu'on pouvait l'acheter en librairie, mais on pouvait le consulter gratuitement en ligne. J'avais fait ça sans m'en rendre compte à cette époque-là, et ce livre a très bien marché, vraiment énormément marché, jusqu'en 2003. En 2003, on se rend compte qu'il y a eu l'explosion de la bulle Internet, les gens achètent beaucoup moins de livres, mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Google a inventé les Google Ads. En fait, il a piqué les Google Ads à ouverture, mais on s'en fiche. Et les Google Ads, à cette époque, commencent à faire gagner un peu d'argent au site. Et quand le site commence à grandir son audience, on arrête le livre papier parce que c'est le site qui commence à nous faire gagner de l'argent. Donc, on voit comment un livre qui était un livre papier a eu sa version numérique. Elles ont coexisté à un moment donné. À un moment donné, on a arrêté le livre parce qu'il ne marchait plus. Il n'y avait plus que le site. Et puis, on a arrêté aussi le site. Donc, voilà. Dans notre époque, aujourd'hui, on n'a pas de rente à vie quand on écrit des livres. En tout cas, moi, les livres que j'ai écrits jusqu'à aujourd'hui, aucun ne m'a rapporté une rente à vie avec les droits d'auteur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si Microsoft, à l'époque, aurait pu très bien m'interdire d'exploiter ce livre en numérique, où il aurait pu très bien m'interdire de toucher 100% des revenus pour moi. J'aurais pu partager, etc. Et là, on voit comment le droit d'auteur, si le droit d'auteur avait été très contraignant, J'aurais pu ne pas créer ce site web qui m'a permis de vivre pendant plusieurs années derrière, et j'aurais pu, ou même le contenu de ce livre aurait pu rester non publié, plus disponible ou plus vraiment disponible, sans que moi, auteur, je puisse l'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort un livre chez un éditeur, l'éditeur est censé le vendre, mais s'il ne le vend pas, il ne nous appartient plus à nous en tant qu'auteur. Il reste à la propriété de l'éditeur. Alors bien sûr, on peut négocier pour récupérer les droits, mais ce n'est pas du tout évident. Donc, on voit comment le droit d'auteur peut être une contrainte pour nous, les auteurs, s'il n'y a pas une parfaite entente entre l'auteur et l'éditeur. Et souvent, sur certains sujets, il n'y a pas vraiment d'entente. Moi, aujourd'hui, je pense une chose. Alors, je ne suis pas un fanatique du droit d'auteur, je suis plus intéressé par le droit des lecteurs. Parce que quand j'écrivais ce guide de vulgarisation Internet, en fait, je n'étais pas vraiment le seul auteur de ce texte. Parce que tous les gens qui créent des sites avec leur adresse, ils ont collaboré à ce livre. Parce qu'ils créaient un contenu que moi, j'allais référencer pour le mettre dans mon livre. Donc, en fait, j'estime que ce livre était une œuvre collective. Et j'estime aujourd'hui, je n'étais pas très conscient de ça à l'époque, mais j'estime aujourd'hui que c'était normal que je donne gratuitement le contenu du livre parce que la communauté avait contribué à sa création. Donc, et ça, c'est vrai avec ce livre-là en particulier, mais c'est vrai aussi quand j'écris un essai, parce que quand j'écris un essai, je ne suis pas le seul à penser tout ce qu'il y a dedans. Il y a des morceaux de phrases qui viennent d'ailleurs, des idées qui viennent d'ailleurs. La langue elle-même a été créée par nous tous et par tous nos ancêtres. Donc j'estime que je suis l'auteur de mes livres, de mes trucs, là. Mais je ne suis pas le seul auteur. Toute la société a contribué à mon travail, et j'estime que j'ai droit de gagner de l'argent avec mes créations, mais j'ai aussi le devoir, et c'est vraiment un devoir, de rendre à la société une partie du travail que je fais. Et surtout, j'estime, et ça c'est pour moi c'est super important, que les lecteurs, ce n'est pas leur revenu qui doit fixer ce qu'ils peuvent lire. On doit pouvoir, si on n'a pas d'argent et qu'on veut lire un livre, il faut qu'on puisse le lire. Or, il faut qu'on puisse aller le lire en librairie, en bibliothèque. Mais aujourd'hui, qu'on est sur Internet, je pense qu'on peut aussi, on doit pouvoir aussi le lire sur Internet. Ça me paraît être un droit d'accès à la culture qui doit être universel. Et je suis pour un droit d'accès à la culture universelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut appeler des communistes, pas des communistes, ils sont pour la mise en bien commun de nos créations. On peut appeler ça le communisme. Moi, je me définis comme ça, comme un communiste, pour qu'on puisse partager les questions, nos créations. Et ça me paraît très important. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est pour moi édifiante, qui est hors du domaine du livre. C'est l'histoire de cette petite bouteille de flacon. Vous la voyez partout dans les pharmacies. C'est, en ce moment, c'est du gel pour se désinfecter les mains. Et ce gel a été créé inventé en 1994 à Genève par Didier Pité. Et Didier, on est au début des années 90, c'est un épidémiologiste. Il rentre des États-Unis où il a fini son post-doc, etc. Et il prend la direction d'un tout nouveau service d'épidémiologie à l'université et l'hôpital de Genève. Et qu'est-ce qu'il commence par faire, par mesurer quelque chose, c'est le taux des maladies nosocomiales dans l'hôpital. C'est-à-dire, c'est les maladies que les gens ont attrapées pendant qu'ils étaient à l'hôpital. Ils rentrent avec une jambe cassée, ils ressortent avec une pneumonie. Ça s'appelle une maladie nosocomiale. Et il découvre quelque chose d'assez incroyable, c'est que 19% des malades sont infectés par une autre maladie que celle qu'ils avaient en rentrant. 19%, vous voyez, c'est gigantesque. Et sur les 19%, il y a 10% des 19% qui décèdent. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Et à l'échelle de la planète, on estime aujourd'hui, ou en tout cas on estime il y a 15 ans, 20 ans à cette époque-là, qu'à peu près 16 millions de personnes chaque année décédaient à cause d'une infection nosocomiale, 16 millions de personnes. Alors quand il constate ça, Didier se dit qu'il faut trouver une solution. Tous les médecins savent depuis Semmelweis, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, que le principal vecteur d'infection, ce sont les mains. Mais il se dit, qu'est-ce que c'est qui cloche avec les mains? Et là, il fait une découverte assez extraordinaire, c'est que aux urgences ou n'importe où, les gens, à l'époque, se lavaient les mains avec de l'eau et du savon, c'est du savon médicalisé. Pour se désinfecter les mains avec le savon médicalisé, il faut 1 minute 30. Et ils ont mesuré combien de fois on devait se laver les mains dans une heure aux urgences. 22 fois par heure. Donc si vous voyez 22 fois x 1 minute 30, vous n'avez plus le temps de soigner les gens. Donc, en fait, personne ne se désinfectait vraiment les mains. On le faisait un peu au début, un peu à la fin, etc., mais on ne le faisait pas. Donc, il y avait un problème que personne ne s'était rendu compte. On disait aux médecins et aux infirmiers, aux infirmières, désinfectez-vous les mains, mais on ne l'aurait pas vu qu'on ne pouvait pas matériellement le faire. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a l'idée de trouver une autre solution, donc qui est l'alcool, qui s'évapore vite, qui tue les bactéries en 20 secondes à peu près. Donc, on passe à 20 secondes, et c'est une découverte assez importante, si forte que... Après beaucoup d'autres innovations, on réduit par deux, voire par trois, le nombre d'infections dans les hôpitaux et partout dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il faut vendre ces gels partout, il faut les vendre, les distribuer. Et Didier, en 2005, devient, au nom de l'OMS, commence une grande campagne de vulgarisation, de promotion de ce produit à l'échelle mondiale. Et au tout début 2006, au tout début de la campagne, il va au Kenya. Et il s'arrête par hasard dans un hôpital, il visite l'hôpital, toutes les chambres une à une, il va voir les patients, etc. Et puis dans chaque chambre, il voit qu'un flacon de ce type-là est enfermé dans une petite boîte et il est enfermé dans une boîte sous clé. Mais il se dit, ça ne va pas. Si ce flacon est sous clé, il faut s'en servir à tout moment, en fait. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'il soit sous clé. Il faut que les infirmières, les médecins l'aient dans la poche et même que les patients l'aient à côté d'eux. Et il va voir le responsable de l'hôpital et pourquoi ce flacon est enfermé. Et on lui explique, en fait, c'est beaucoup trop cher. Il est beaucoup trop cher, ce flacon. Et il le payait à l'époque 5 fois plus cher que le prix que Didier et partout ailleurs dans le monde ont commencé à le toucher dans les hôpitaux occidentaux. Et là, il se rend compte qu'il y a un problème. Si ce produit reste un produit réservé à une élite de laboratoires, etc., il ne va pas se propager. Et donc, on ne va pas réduire les taux d'infection partout dans le monde. Et donc, il y a des gens qui vont mourir pour rien. Alors qu'on pourrait très bien les sauver avec juste un peu en se lavant les mains. Et donc, il est assez furieux et il décide de créer une formulation qui va coûter le moins cher possible et qui va être publiée sur le site de l'OMS et du coup, qui va être gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Plutôt que de déposer un brevet pour ça, d'avoir un copyright restrictif, il a libéré la formule pour que n'importe quel laboratoire, n'importe qui dans la brousse, grâce à de la canne à sucre, grâce à n'importe quoi, de la betterave, de la patate, ils ont créé des protocoles pour créer ce produit à partir de rien et de n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux ont été divisés en moyenne par deux dans le monde. C'est-à-dire qu'on estime que ce petit flacon sauve 8 millions de personnes dans le monde. Imaginez que si la formulation n'avait pas été libérée, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient sauvés chaque année. Donc vous voyez, l'idée de donner, elle fait son chemin un peu partout dans le monde en ce moment. Didier avait calculé que chaque année, c'était plusieurs milliards de dollars à laquelle son laboratoire et son équipe et son hôpital renonçaient parce qu'il a donné la formule. C'est plusieurs milliards de dollars. Alors moi, quand aujourd'hui on fait des stars, Steve Jobs qui gagne des milliards, etc., on fait l'élite des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on ferait mieux de célébrer les gens qui renoncent à gagner beaucoup d'argent pour en sauver des millions. Parce que les véritables héros aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de faire un choix qui n'est pas le choix de gagner beaucoup, c'est le choix de donner tout de suite, pas après d'avoir fait fortune. Donc voilà, le problème que tout ça pose... C'est que pourquoi moi j'aurais... Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai rencontré Didier et j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle Le geste qui sauve aujourd'hui. J'avais trouvé cette histoire superbe parce qu'elle illustre le fait qu'on peut donner ailleurs que dans le domaine du numérique. Parce qu'on nous dit toujours dans le numérique, vous pouvez donner, c'est facile, ça ne coûte rien à fabriquer. Là, on a l'exemple de quelqu'un qui donne quelque chose qui peut sauver des vies. Et ça marche dans tous les domaines, en fait. Et donc, j'ai voulu écrire le livre. Quand je suis allé voir les éditeurs en France, ils m'ont tous dit non, c'est nul, c'est un truc médical, ça n'intéressera personne, etc. J'ai laissé passer un an, et puis ça m'a travaillé. Je me suis dit, c'est trop important cette histoire, parce qu'elle illustre bien que l'idée de partager, le communisme, elle marche dans tous les domaines, et c'est important de l'expliquer. Donc, j'ai écrit le bouquin. Et Didier, quand il a lu la première version, il a dit on ne peut pas juste le balancer comme ça sur Internet, simplement, en Creative Commons, il va se propager, ok, c'est bien, mais il faut que les gens l'aient en papier aussi. Et donc, comme on n'avait pas de vente, a priori, les éditeurs disaient tu ne vas rien vendre, tu vas vendre 300 exemplaires. C'est pas bon. Il a fait le tour des laboratoires qui fabriquent ça, qui fabriquent ce produit partout dans le monde. Il leur a dit mais vous ne voulez pas acheter des bouquins pour les donner un peu partout, pour faire la promotion du bouquin. Et en fait, on a eu 30 000 exemplaires qui ont été précommandés avant la sortie du livre, ce qui est énorme, et ça dans 5 langues, en anglais, en japonais, etc. Et donc là, tous les éditeurs, d'un seul coup, ont dit « oui, oui, on veut publier ». Donc vous voyez bien comment fonctionnent les éditeurs. Ils sont contre quand il n'y a pas de marché. Dès qu'il y a du marché, ils sont pour. C'est important de savoir ça. Moi, je ne les blâme pas. Les éditeurs sont des entreprises qui font du business. Elles ne sont pas là pour le bien de l'humanité. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est dans une industrie culturelle qu'on veut juste faire propager la culture. On veut aussi arriver à l'équilibre à la fin de l'année et gagner un peu d'argent. Le livre est sorti et on ne pouvait pas sortir ce livre sous un copyright normal. On a bien sûr sorti ce livre sur un copyright, sous Creative Commons, pas sous copyright, pour que n'importe qui puisse le lire, le distribuer, le copier, etc. Et très vite, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Le livre a été traduit dans 14 langues, par des bénévoles, par d'autres éditeurs ailleurs dans le monde. Comme ils n'avaient rien à négocier, il leur suffisait de nous dire « on le prend, on le fait, et allez-y, faites-le ». Dans le livre, aujourd'hui, est en train de se propager partout. On a vendu 50 000 copies du livre, et on ne sait même pas combien il y en a qui circulent, parce qu'il y a des endroits au Brésil, ils en ont imprimé eux-mêmes des milliers, des dizaines de milliers de livres. On n'a aucune idée de combien d'exemplaires du livre circulent. Ce qui compte, c'est que le livre circule. Alors, ce qui se passe, bien sûr, moi, j'ai rien gagné parce que j'ai pas de droit d'auteur. Et en fait, les droits d'auteur que j'aurais pu avoir sur les ventes qui se sont faites en France ou dans les pays où on a des contrats à peu près classiques, je les ai fait reverser à une fondation. Mais le paradoxe, c'est que j'ai quand même gagné en gros 10 000 euros avec un livre sur lequel je n'ai pas de droit. Je n'ai pas de contrat. Donc 10 000 euros, ça paraît pas beaucoup. Hein. Et c'est pas beaucoup vu le temps que j'y ai passé. C'est absolument au tarif horaire, c'est rien. Mais ça veut dire que c'est l'équivalent de vendre 10 000 livres, si j'avais vendu 10 000 livres en librairie. Il faut savoir que la plupart des auteurs, quand ils vendent 1 000 livres, 2 000 livres, c'est déjà pas mal en ce moment. Donc si j'avais pas fait ce livre en Creative Commons, il m'aurait peut-être rapporté 500 euros. Il m'aurait demandé autant de travail. Et le message qu'il porte, ce serait moins diffusé. Ce qui est fâcheux aujourd'hui, c'est que moi, j'ai pu écrire ce livre parce que j'ai ce revenu de vie que je me suis créé. Didier, il a pu faire ses recherches et refuser les milliards parce qu'il est universitaire, il est professeur de médecine. Donc, dans tous les cas, il gagne son salaire et ça lui suffisait son salaire de médecin qui est déjà à Genève un très bon salaire. Hein. Donc, il a renoncé à beaucoup plus d'argent. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de gens qui écrivent, qui créent et qui ne gagnent absolument rien. Et le droit d'auteur traditionnel, c'est un droit très restrictif. On a un pourcentage sur les ventes. Et comme on est très nombreux, quoi qu'il arrive, il y a juste une petite élite qui réussit à vivre du droit d'auteur. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus de gens qui vivent du droit d'auteur en France qu'il n'y a de footballeurs en première division. Donc on ne peut pas dire que c'est une profession, c'est vraiment une élite qui bénéficie du droit d'auteur traditionnel. Et moi, ça ne m'intéresse pas trop cette élite-là, qu'elle existe, je n'ai rien contre elle, mais c'est pas la solution au problème, ce n'est pas le droit d'auteur traditionnel. Il faut qu'on invente quelque chose qui permet à tous les créateurs de créer et de distribuer leurs œuvres. Je suis pas. Il y a des auteurs qui voudraient qu'il y ait moins d'auteurs, qui voudraient qu'il y ait des quotas presque, qui voudraient qu'on ait publié moins. Moi, je dis non, au contraire, allez-y publier de plus en plus, Internet c'est fait pour ça. Publier. Mais il faut qu'on trouve socialement quelque chose pour nous soutenir. Parce que je pense que l'art et la réflexion, tout ce qu'on veut, c'est fondamental à la société. Et il faut qu'on ait un système qui nous rémunère tous. Parce que, par exemple, quand quelqu'un garde des enfants, il travaille à la société de demain. Donc, il participe à la création de la société. Quand quelqu'un est bénévole dans une association, c'est du travail aussi qui est fait pour l'humanité. Mais c'est du travail qui n'est pas pris en compte dans le PIB aujourd'hui. Tout ça, ce n'est pas pris en compte. C'est pour ça que moi aussi, je milite pour le revenu de base. L'idée, ou le dividende universel, l'idée, c'est qu'on ait tous un revenu mécaniquement qui apparaisse dans nos poches tous les mois pour valider tout le travail créatif qu'on fait. On fait tous du travail créatif et ce travail devrait être rémunéré. Il n'y a pas de raison qu'il y ait juste le travail qu'on fait quand on va piocher pour faire une tranchée ou que quand on va peindre un mur qui soit payé ou que quand on va passer des ordres en bourse. Tous les travaux qu'on fait qui participent à la vie de la société devraient être rémunérés par la société et créer une œuvre d'art, écrire un roman, même s'il est nul, même s'il n'y a que 10 personnes qui le liront, ça peut être important. Parce que ça peut être important pour ces 10 personnes-là et ça peut être aussi important pour celui qui l'a écrit. Ça lui permettra de faire autre chose derrière. Donc je pense qu'il faut trouver un système qui nous soutient tous dans nos activités créatrices. Techniquement, ce n'est pas le sujet, on sait comment faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est la seule solution. Parce qu'il faut voir dans quel monde on vit, c'est ma conclusion. On vit dans un monde où c'est des machines qui sont en train de travailler de plus en plus à notre place. Les systèmes intelligents sont de plus en plus performants. Il faut arrêter de se leurrer. Donc, le travail, le plein emploi, ça n'existe pas. C'est qu'on va vers une société du plein temps libre. Et ce temps libre, on va l'utiliser à quoi ? À faire ce pour quoi nous, humains, on est fort, c'est-à-dire créer. Et si on ne rémunère pas la création, surtout dans une époque où copier les biens culturels, il suffit d'un clic et jamais on pourra l'arrêter. Donc il faut que cette création, elle soit soutenue vraiment au cœur de notre société. Autrement, nos sociétés vont aller très mal. Voilà, merci.
Merci. Merci Thierry. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Claude Bologne. Vous êtes poète, romancier, journaliste, enseignant, conférencier. De 2010 à 2014, vous avez présidé la Société des gens de lettres, qui est une association privée reconnue d'utilité publique qui représente les auteurs et qui est également gérée par des auteurs comme vous. C'est à votre tour.
Merci, bonjour à tous. Pour me présenter aussi en deux mots, je fais partie de ce qui vient d'être nommé élite. Je voudrais qu'on précise ce qu'est cette élite. Je vis de mes droits d'auteur depuis 1986, donc depuis 30 ans. Ce sont des hauts et des bas. Le plus haut a été 30 000 euros par an. Le plus bas a été 10 000 euros par an. Je ne me considère pas comme un joueur de Formule 1, un footballeur. Il y a aussi des auteurs qui gagnent leur vie et qui peuvent survivre avec leur vie, même à Paris, de leurs droits d'auteur. Ce n'est pas pour ça qu'ils forment une élite au sens que l'on entend habituellement. Pour information, il y a pour l'instant à peu près 3000 auteurs qui vivent de leurs droits d'auteur. Et quand je dis vivent de leurs droits d'auteur, ça veut dire qu'ils gagnent, qui ont avec leurs droits d'auteur la possibilité d'avoir une sécurité sociale et une retraite. Ces 3000 auteurs, dont à peu près 800 à 1000 traducteurs, les autres sont des auteurs de livres qu'ils créent eux-mêmes. Sur ces 3000, il y a à peu près la moitié qui n'atteint pas annuellement le seuil d'affiliation à la GESA, qui sont récupérés par des commissions de professionnalisation. Le seuil d'affiliation à la GESA est autour de 8500 euros par an. Alors la GESA est l'association qui gère la sécurité sociale et la retraite pour les auteurs, et donc qui perçoit les cotisations des éditeurs et des auteurs et qui les reverse à l'assurance maladie, à la CPAM. Donc non, vivre de son droit d'auteur, ce n'est pas une élite. Je vais vous dire... Très franchement et très crûment, je vis comme Frosine dans l'avare de Molière, avec tout ce que je n'ai pas. Je n'ai pas de voiture, je vis dans un deux pièces à Paris et je n'ai pas d'autre appartement. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas courir les filles. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas et je suis heureux. Je suis profondément heureux depuis 30 ans. Cette petite restriction faite, je suis alors là à 150% d'accord avec ce qu'a dit Thierry. J'espère introduire quelques sujets de controverse, sinon je ne sais pas de quoi nous allons parler, mais je suis totalement d'accord avec Thierry. Simplement, tout ce que tu as dit peut se faire dans le système de droit d'auteur. Il n'y a aucun problème pour céder gratuitement ces livres à qui je l'ai déjà fait aussi. Je vis de mon droit d'auteur, mais j'ai aussi fait des livres pour lesquels je n'ai rien touché parce que je ne souhaitais rien toucher. J'ai aussi fait des livres qui ont été prévendus et qui m'ont permis d'avoir un petit peu plus d'argent pour des années où il y en avait un petit peu moins. Tout est possible dans ce système qui est relativement souple. Alors oui, il y a le problème du droit d'auteur vu du côté auteur et vu du côté éditeur, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui existe depuis toujours et que j'exerce depuis 30 ans, ça s'appelle de la négociation. Je n'ai jamais signé un contrat sans le discuter. y compris ce soir. Et j'ai même entendu que, vu qu'on me traite d'auteur tatillon, parce que j'avais demandé deux petites modifications dans le contrat qui fait que je suis ici ce soir. Oui, mais il faut être auteur tatillon. C'est ça qui permet, lorsqu'on est en face d'un éditeur qui ne respecte plus vos droits, de lui dire, monsieur, dans votre contrat, j'ai fait barrer cet article. Et puis, ça s'arrange comme cela. C'est beaucoup plus facile d'aller voir un éditeur avec un contrat qu'on a négocié, dans lequel on a fait rayer les articles qui ne nous intéressaient pas, dans lequel on a négocié les droits. Et c'est beaucoup plus facile d'aller voir après. Ça règle tout. Alors, oui, on passe pour tatillon. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de contrats discutables. Quand j'ai commencé, il y a 30 ans, à discuter mes contrats, je parlais à l'éditeur. Maintenant, je parle à un intermédiaire qui va en référer à son service juridique, qui va en référer à son éditeur, qui va en référer au consortium qui réunit une série de maisons d'édition. Et il faut 6 mois pour obtenir un contrat. Mais je continue à le négocier et je dis aux auteurs, il faut négocier les contrats. C'est ça qui fait qu'on n'a plus de problème après. Alors voilà, avec ces petites restrictions-là, donc je suis à 150% d'accord avec toi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est autour de cette idée qui nous est présentée comme une idée reçue. Internet va tuer le droit d'auteur. Eh bien oui, c'est une idée reçue. Une idée reçue pourquoi ? D'abord parce qu'Internet, c'est un outil formidable que j'utilise tous les jours, dont j'utilise peut-être le quart ou le dixième ou le centième des possibilités, tellement il y en a. Et on n'a jamais dit qu'un outil tuait quoi que ce soit. Une hache n'a jamais assassiné personne. C'est la main qui le tient et qui assassine. Et si le droit d'auteur est en danger aujourd'hui, et il est en danger, ce n'est pas à cause d'Internet, c'est à cause d'une mauvaise utilisation d'Internet ou de gens qui s'abritent derrière Internet pour essayer d'attaquer le droit d'auteur. Et là, je pense qu'il va y avoir un sujet de controverse intéressant. La vraie question est donc, est-ce que nous voulons conserver le système du droit d'auteur, mettre quelque chose d'autre à la place, et si on met quelque chose à la place, quoi ? On pourrait démontrer, et si on pourra peut-être le faire dans le débat, qu'Internet, au contraire, est un formidable outil également pour protéger les auteurs, pour protéger leur œuvre et pour protéger le droit d'auteur. Toutes les sociétés de perception, de répartition des droits utilisent Internet. Et il y a des tas d'usages d'Internet pour protéger les droits d'auteur, dont je serais vraiment très heureux de pouvoir parler tout à l'heure. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler maintenant. D'abord, vous dire pourquoi est-ce que cette idée reçue finit par... On a toujours là-bas. Autant vous dire tout de suite, je ne me reconnais dans aucun des deux personnages, ni des trois phylactères qu'il y a ici. Pourquoi est-ce que le droit d'auteur a finalement été conçu comme contradictoire avec Internet ? Il y a d'abord une crainte des auteurs, et il faudra aussi qu'on en parle. Je vous l'ai dit en deux mots, les auteurs voient leurs revenus dramatiquement baisser. Au fur et à mesure qu'Internet monte, les revenus baissent. Je suis persuadé que ce n'est pas lié, mais le premier sentiment est de dire peut-être, oui, il y a peut-être un lien à cela, on vend moins parce que tout le monde est sur Internet. Il y a des craintes de la part des auteurs. Il y a aussi des craintes de la part des internautes. Et lorsque je lis, voilà, c'est le manifeste pour le domaine public que j'ai relu il y a quelques semaines. Et dans l'introduction, je vois qu'il y a des obstacles habituellement associés à la protection par le droit d'auteur et le copyright. Et puis, sur une bonne partie, pas surtout, mais sur une bonne partie de ce texte, je suis d'accord, alors que je suis un défenseur du droit d'auteur. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Comment est-ce qu'on peut, en parlant ensemble, essayer de dépasser les idées reçues ? Je tiens au terme « idées reçues ». C'est l'unique raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Ayons donc une explication franche entre auteurs, puis entre auteurs et autres ayant droit, et entre auteurs et éditeurs et pouvoirs publics. Vous savez qu'Axel Lemaire fait pour l'instant passer une loi sur l'univers numérique. Elle l'a présentée en répétant 20 fois « il n'y a pas de numérique sans confiance ». Je suis totalement d'accord, il faut rétablir une confiance. Si ce n'est pas Internet qui, pour moi, est un obstacle au droit d'auteur, ce sont ses utilisations. Point d'interrogation. Quelles sont les utilisations d'Internet pour les auteurs ? D'abord, la fouille de texte. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Plus aucun chercheur ne peut dire « je n'utilise pas Google Book pour fouiller un texte et trouver une information ». Il y a l'adaptation au handicap. C'est beaucoup plus facile de faire des livres en braille à partir d'un fichier numérique. Il y a les prêts en bibliothèque, bien entendu. Et je serais totalement ravi que mes livres sous forme de fichiers numériques soient prêtés à distance à des gens qui n'ont pas de bibliothèque autour de chez eux. Il y a les œuvres transformatives, le remixing, pouvoir prendre des œuvres et en faire une nouvelle œuvre. Tout le monde fait ça, et depuis toujours, bien avant Internet. Il y a la création collaborative, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Tous ensemble peuvent faire d'autres œuvres, des œuvres ouvertes qui ne se terminent plus au point final, mais que l'on va donner au public et le public va les prolonger. C'est un usage d'Internet que j'attendais depuis longtemps. Il y a la numérisation en nombre, savoir que la totalité du patrimoine va pouvoir être accessible parce qu'il n'y a plus cette contrainte du papier qui est cher et qui abat des forêts en Amazonie, que ça va pouvoir être accessible partout et de façon transfrontalière grâce à Internet. Pour moi, c'est merveilleux. Et la disponibilité permanente de mes livres, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure aussi. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où j'ai gagné ma vie sur un livre, il ne pourrait pas être disponible autrement. Donc tout cela, c'est une augmentation potentielle du lectorat extraordinaire et c'est de nouvelles perspectives de création dont j'ai envie de m'emparer. Pourquoi alors y a-t-il des réticences de la part de certains auteurs? Et je vous le dirai tout de suite, avec tout ce que j'ai dit, de ma part également. Ce sont des réticences qui ne sont pas de fond, mais qui viennent tout simplement de méfiance, de suspicion. Et c'est cela qu'il faut absolument lever pour que le droit d'auteur persiste, il est extraordinairement souple, et pour qu'Internet vive avec le droit d'auteur. Je voudrais donc dire deux mots sur les craintes des auteurs et des ayants droit par rapport à Internet. J'en ai ciblé trois. D'abord, la multiplication des copies numériques et des organismes qui peuvent les détenir légitimement. Il est tout à fait normal que pour avoir une copie, pour pouvoir éditer un livre en braille, il y ait une copie numérique qui soit confiée à l'association, que pour vouloir faire un prêt en bibliothèque, il y ait des copies numériques qui soient détenues par les bibliothèques, etc., etc., etc. C'est tout à fait normal, mais la multiplication des copies numériques veut dire la multiplication des risques de piratage. Le jour où la totalité des parties prenantes diront « arrêtons le piratage, arrêtons les fuites », il n'y aura aucune crainte, aucune suspicion, et les copies numériques, sans DRM, s'il n'y a pas de pirate, il n'y a pas besoin de DRM, les copies numériques circuleront sans aucun problème. Deuxième crainte des ayants droit, c'est la multiplication des exceptions. Alors, la métaphore que l'on entend souvent et régulièrement, c'est celle de l'émental. C'est normal et c'est bien qu'il y ait des trous dans un émental. À partir du moment où les trous sont plus importants que la pâte, vous rapportez l'émental à votre fromager. C'est la même chose pour les exceptions. Il est tout à fait normal qu'il y ait, je pense, une quinzaine d'exceptions au droit d'auteur, mais à partir du moment où ces exceptions grossissent et viennent concurrencer la pâte, le droit d'auteur, c'est un petit peu moins normal, c'est en tout cas une de nos craintes. Et la troisième crainte que nous pouvons avoir, c'est la multiplication des utilisations d'une même œuvre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'attends le moment où une bibliothèque pourra prêter mes livres à distance, sous forme numérique, à des gens qui ne peuvent pas y accéder. Si l'on me dit, par exemple, qu'on peut prêter 1000 copies en même temps, à des gens qui ne sont pas nécessairement usagers de la bibliothèque, et que pour prêter ces 1000 copies simultanées ad vitam aeternam, il suffit d'en acheter une, je ne serais plus d'accord. Je caricature, nous n'en sommes pas là. Mais la multiplication des copies fait peur, la multiplication des usages d'une même copie fait peur, parce que ça peut concurrencer non seulement le livre numérique, et briser le marché du livre numérique, mais aussi le livre papier. Que l'on revende un livre d'occasion, c'est normal, ça a toujours existé. Si on ne balise pas les choses, pouvoir revendre d'occasion un fichier numérique que l'on conserve et que l'on revendrait 1000 fois d'occasion parce que l'on peut le dupliquer comme on veut, ce n'est plus normal. Entre tout cela, il y a des équilibres à trouver. Et les équilibres, on ne les trouve qu'en parlant, et on ne les trouve qu'en parlant en confiance. Je reviens donc toujours à cette « il n'y a pas de numérique sans confiance », cette bonne parole que l'on répète. Si je demande une discussion franche, c'est pour qu'il y ait une discussion sans sous-entendu, sans chausse trappe, sans piège. Je ne vous en donner qu'un exemple, je pourrais vous en donner d'autres tout à l'heure si vous le souhaitez. Et je vous dis pourquoi, à un certain moment, on ne peut plus vraiment se parler et on est sur des positions très, très raides. Demain va passer à l'Assemblée nationale un amendement, l'AC13 et l'AC14, dans la loi sur le numérique d'Axel Lemaire. C'est un amendement sur le domaine commun informationnel qui précise que le droit moral est applicable à ce domaine commun informationnel. Qu'est-ce que ça veut dire que on pourrait créer un domaine commun ou un domaine public dans lequel les auteurs pourraient verser volontairement leurs œuvres et que leur droit moral serait applicable. Formulé comme cela, ça existe déjà. Tout auteur peut renoncer à ses droits patrimoniaux et ne peut pas renoncer à ses droits moraux. Donc cela existe déjà. Pourquoi est-ce qu'on nous propose quelque chose qui existe déjà? Il faut aller voir dans un petit peu plus loin où un organisme, en l'occurrence l'INPI, centraliserait et diffuserait les informations nécessaires pour la promotion de l'innovation collaborative. Alors, la promotion de l'innovation collaborative, a priori, je ne sais pas ce que c'est. Mais je me demande pourquoi il y a une innovation sur une œuvre qui bénéficie de la protection du droit moral et donc du droit à l'intégrité. Est-ce que derrière cette innovation collaborative, pourquoi est-ce qu'une œuvre qui est faite par un seul auteur va avoir des innovations collaboratives? Ça veut dire que là, il est quand même question de toucher au droit moral, ou on peut le craindre. Et on peut le craindre alors qu'on nous a assuré que le droit moral était entier. Là, je ne comprends pas. On pourra en parler, mais ce genre de petits détails crée à un moment donné la suspicion. Et si nous voulons pouvoir parler ensemble, il faut que toutes les questions soient posées, qu'il y ait des réponses à toutes les questions et que l'on n'ait pas chaque fois à se dire « mais où est-ce qu'on nous entraîne ?» C'est un peu comme si on nous disait « est-ce que vous seriez favorable à une loi qui autoriserait à rouler sur les routes ?» Mais tout le monde est favorable, les routes sont faites pour rouler. Et si on vous propose cette loi, on a toujours la suspicion de dire « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Ah oui, il y a aussi les routes privées. Est-ce qu'on ne nous demande pas l'autorisation de rouler sur les routes privées? Ah oui, mais quand on roule, on peut être en état d'ivresse. Est-ce qu'on ne nous demande pas l'autorisation de conduire en état d'ivresse? On en arrive dans des délires. Et ces délires, si on ne s'explique pas, ils vont focaliser les attitudes. Il y aura un vainqueur et un vaincu. Chacun va espérer être du côté du vainqueur et pas du côté du vaincu. On est dans la controverse. C'est ce que j'essaie d'éviter aujourd'hui. Et je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon temps. Je reparlerai peut-être tout à l'heure des deux vrais problèmes qui se posent entre Internet et le droit d'auteur. L'un concerne effectivement le Web 2.0. Nous sommes désormais dans une création qui ne peut plus être fermée. L'auteur ne met pas le point final à son texte sur Internet. Et là, il faut une réflexion profonde sur ce fameux droit moral, ce fameux droit à l'intégrité qui fait qu'on ne peut plus toucher un texte, qu'il est gelé dès qu'on le met en ligne. Là, il y a une réflexion qu'il faudrait que nous ayons et j'espère que nous pourrons en parler tout à l'heure. L'autre chose où il y a pour l'instant un problème entre Internet et le droit d'auteur, c'est sur la numérisation sans autorisation préalable. Aucune des solutions qui étaient proposées jusqu'à présent n'est totalement acceptable et pose des problèmes. Que ce soit Google, la numérisation en nombre de livres sous le droit américain, sous le fair use américain, que ce soit le protocole d'accord de l'Union européenne, de la Commission européenne sur les livres indisponibles qui demande aux associations d'ayant droit de négocier les conditions de numérisation des œuvres disponibles et pas aux auteurs, que ce soit bien entendu la directive sur les œuvres orphelines qui va considérer comme orphelines, donc sans auteur repérable, tous les auteurs qui ne sont pas inscrits pratiquement dans une société de gestion collective ou dans une société d'auteurs, il y a là quelque chose qui profondément, moi, me choque, c'est-à-dire que la grosse majorité des auteurs va voir ses œuvres considérées potentiellement comme orphelines. Il n'y a pas de solution pleinement satisfaisante à ce problème, et c'est un problème qui pour moi doit être résolu, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait un Internet sans que la totalité du patrimoine ne soit accessible. Dans quelles conditions, on le verra, on en discutera. Voilà, donc ce sont ces deux problèmes, je pense, dont il faudrait que l'on discute, parce qu'il y a une vraie opposition entre le droit d'auteur traditionnel tel qu'on l'a aujourd'hui et les usages d'Internet. Je pense que les solutions peuvent venir d'Internet, et nous y travaillons. Je pense par exemple que le fichier Balzac, qui a été mis en place à la Société des gens de lettres, est un formidable outil pour que les auteurs puissent dire ce qu'ils veulent que l'on fasse de leur texte. C'est Internet qui le rend possible. Et je pense qu'Internet a plein de possibilités pour que le droit d'auteur ne passe pas à pertes et profits dans cette grande mutation. Voilà le principal de ce que je voulais vous dire, en espérant que nous allons revenir sur un certain nombre de ces sujets. Merci.
Mon micro est ouvert. Ah oui, ça y est. Merci à tous les deux pour ces plaidoyers. Je ne suis pas tellement sûr que vous soyez tant d'accord que ça sur le fond des idées. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de divergences. Est-ce que pour comprendre, il ne faudrait pas déjà qu'on définisse un peu ce qu'on entend par droit d'auteur ? Parce que bon, il a été question des éditeurs aussi. Est-ce que les éditeurs ont des droits d'auteur sur les livres ? Et puis peut-être pour qu'on comprenne aussi, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis toujours, le droit d'auteur. C'est une construction qui s'est faite, qui s'est développée plutôt du 19e siècle, qui s'est renforcée au 20e siècle. Et à quoi ça répondait à ce moment-là ? Pour qu'on comprenne aussi si, par comparaison, si ça répond encore à des besoins aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on peut expliquer, expliciter ces choses-là ?
Je suis nul là-dessus.
le droit d'auteur en tant que tel est un droit de l'auteur. Le droit d'auteur, une partie du droit d'auteur, les droits patrimoniaux, peuvent être cédés. Une partie du droit d'auteur est incessible. Ce sont les droits moraux qui sont attachés à la personne de l'auteur. Si l'auteur décide de les céder, en droit français, il ne peut pas. En droit anglo-saxon, il peut. En droit français, il ne peut pas. C'est-à-dire que le droit moral, c'est très simple. C'est le droit à la paternité de l'œuvre. Dire cette œuvre est à moi et mon nom est dessus. Ou je ne veux pas que mon nom soit dessus. Le droit à l'anonymat fait partie du droit à la paternité. C'est le droit à l'intégrité. Je ne peux pas dire, et c'est ça un des nœuds du problème actuellement, je ne peux pas dire je laisse n'importe qui utiliser mon œuvre, la déformer comme il veut. L'intégrité suppose que l'auteur donne son autorisation préalable. C'est le droit au repentir, je peux retirer mon œuvre. Le quatrième, là, comme ça, je l'oublie, je ne suis pas juriste. Mais le droit à le droit moral, c'est 4 points, c'est pas 5, c'est pas 6.
Et
ça, c'est inaliénable. L'auteur ne peut pas le céder. Et puis, il y a des droits qui sont cessibles, que l'auteur peut céder, et en général, il le cède à un éditeur, sous forme de contrat d'édition, sous forme de licence, sous forme de tas de choses, mais essentiellement sous forme de contrat d'édition. Et donc, l'éditeur devient titulaire du droit d'auteur, mais au nom de l'écrivain. L'éditeur n'a pas de droit d'auteur en tant que tel.
Du point de vue patrimonial, c'est-à-dire des revenus, ça concerne les revenus.
C'est les revenus, c'est le droit à l'adaptation.
Toujours
des revenus, mais ça va un petit peu plus loin et c'est assez dramatique parfois pour certains auteurs. Le droit de traduction, le droit d'adaptation font partie du droit patrimonial. Et lorsqu'un auteur se sent trahi dans l'adaptation d'un de ses livres, au cinéma ou au théâtre, ce que vous voulez, c'est assez tragique pour lui. Il ne peut rien faire sinon retirer son nom parce qu'il a cédé son droit d'adaptation à l'éditeur.
Alors là, tout ça, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. On parle beaucoup, Thierry en a parlé à plusieurs reprises dans son intervention, de ce qu'on appelle les communs créatifs ou les creative commons, pour reprendre. Donc ce sont des concepts qui ont été développés par un universitaire américain qui s'appelle Lawrence Lessig, qui ont essaimé, qui essaiment mêmes qui sont défendus. Il a été question à un moment dans le projet de loi République numérique de mettre en avant ce concept de commun. Ça a été, je crois, abandonné. Enfin, on le saura. La loi est en cours de discussion au Parlement, donc on saura ce qui va se passer. Et ce que vous avez dit immédiatement, c'est qu'il n'y avait pas d'opposition. Parce qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre donc, les communs créatifs et le concept de droit d'auteur, au contraire.
Non seulement il n'y a pas d'opposition, mais les Creative Commons s'appuient sur le droit d'auteur dans chaque pays et sur le copyright dans les pays anglo-saxons. Les Creative Commons sans le droit d'auteur n'existent pas.
Est-ce que tout le monde connaît les Creative Commons ou est-ce que vous souhaitez qu'on développe un peu plus ces choses-là? Ouais, vous voulez bien qu'on développe un peu plus, d'accord. Mais
en deux mots, avec les Creative Commons, l'auteur peut dire à l'avance et par quatre sigles simples ce qu'il autorise comme usage de son œuvre.
C'est un contrat préétabli par l'auteur avec des utilisations et où on peut déterminer, donc il y a plusieurs catégories, si on autorise des utilisations commerciales, si on ne les autorise pas, si on autorise ce qu'on appelle des remixes, c'est-à-dire des adaptations, des modifications, etc. C'est ça, Thierry. Ouais. Et ça ne s'oppose pas au droit d'auteur traditionnel, au contraire, ça s'appuie dessus.
Ça doit s'appuyer dessus, puisque s'il y a contestation, s'il y a mauvaise utilisation et qu'on veut aller en justice, c'est pas sur les Creative Commons qu'on s'appuiera, c'est sur le droit d'auteur. Et les Creative Commons commencent toujours par dire que c'est sur l'usage du pays que l'on doit s'appliquer.
Alors moi,
notamment, puisque tu as parlé du droit de modification, en France, ce n'est pas possible de céder le droit à modification. On peut céder le droit d'adaptation, mais pas de modifier.
Donc ça veut dire qu'en France, quand moi, je mets une de mes émissions sous Creative Commons, moi je préfère dire commun créatif parce que les deux mots existent en français, sous commun créatif, ça veut dire que je suis dans l'illégalité par rapport au droit moral lié à ce que j'ai fait.
Ou si tu autorises la modification,
j'ai l'autorisation.
Si tu autorises le remix
pour utiliser le terme que utilise, c'est illégal en fait, on peut pas.
Encore une fois, je ne suis pas juriste, donc je vous dis comme je le comprends. Ce ne correspond pas à la loi française. Et si il y a une autorisation que tu acceptes, une modification que tu acceptes et qui te semble contraire à ton droit moral, tu n'as pas perdu ton droit moral parce qu'il est incessible. Et donc tu pourrais D'accord. attaquer celui qui a fait une modification en disant « mais c'est contraire à mon droit moral ». Il est évident, et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que des juristes travaillent, il est évident que si tu dis « moi j'autorise toutes les modifications », que quelqu'un s'en empare et fait des modifications que tu n'as pas envie de voir et que tu vas devant le juge, le juge va...
Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que
peu de chances de donner raison.
Les juristes travaillent beaucoup à contrer les évolutions possibles du droit, notamment dans le projet. Alors, peut-être qu'il y a des spécialistes dans la salle qui vont nous éclairer après, mais on a eu le sentiment dans le projet de loi République numérique que les juristes, et notamment au service de ce qu'on va appeler les lobbies du droit d'auteur, ont beaucoup contré toutes les évolutions possibles et nous ont un peu enfermés dans ces paradoxes.
Sur le droit moral, non. Sur le droit moral, c'est une question d'auteur.
Thierry, est-ce que c'est trop technique?
Non, c'est pas ça. C'est que ça m'embête, moi, tout ça.
D'accord.
Non, mais ça m'embête. Ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, on peut diffuser nos textes, hein, qu'on soit connu ou pas connu, et il faut pas s'encombrer de tout ça. Franchement, ça m'intéresse pas du tout.
Ouais,
moi, quand j'écris un texte, je le balance sur le net. Si je le mets en CC0, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et si j'ai peut-être mon droit moral en France, en Suisse, je ne l'ai sûrement pas. Aux États-Unis, je ne l'ai pas. Franchement.
Moi, je vais te raconter une histoire. La semaine dernière, j'ai reçu un mail d'un consortium de sociétés, pas la Société des gens de lettres, mais de sociétés identiques. Enfin, je n'ai pas retenu les sigles, mais voilà, qui se félicitaient du fait que le domaine public avait la définition en droit positif du domaine public n'était plus considérée ou ne rentrait plus dans le cadre de la loi de la République numérique. Et je me suis dit, je suis comme vous, je ne comprends rien à ce que ça veut dire, mais je me suis dit comment des gens qui défendent la culture, etc., peuvent se féliciter dans un mail qu'ils envoient à tout le monde du fait qu'il n'y a pas de définition positive du domaine public. Alors, je suis sûr que vous pouvez traduire et que vous allez peut-être nous expliquer que c'est très bien et tant mieux qu'on ne définisse pas de manière positive le domaine public. Mais moi, je trouve ça effarant. Et peut-être en discutant, tu dis que c'est ennuyeux, on pourrait comprendre comment des sociétés qui sont censées défendre l'art, les lettres, etc., peuvent se féliciter du fait qu'on ne définisse pas de manière positive le domaine public. Alors définir de manière positive en droit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire en gros, enfin j'imagine, je ne suis pas juriste non plus, que ça n'est pas défini par référence à quelque chose, donc de manière négative, en disant après tant d'années, ça tombe dans le domaine public, en disant non, le domaine public est telle chose. Voilà. C'est ça en gros.
Oui, et là je vais te rassurer tout de suite. S'il s'agit de, si on s'entend bien sur le domaine public et sur une définition positive, je n'ai rien contre le fait de dire que le domaine public soit défini positivement.
Ouais.
Si on s'entend bien sur les termes,
mais je peux proposer une définition positive, moi. Ouais. Domaine public, c'est quand tu copies une œuvre, tu dis que tu la partages. Si c'est pas du domaine public, tu dis que tu la pirates. C'est ça la différence. C'est la différence, elle est simple. Dans un cas, on utilise le mot pirate, dans un autre cas, on utilise le mot partage.
En fait, ouais.
Non. C'est malheureusement pas aussi simple. Lorsqu'on parle d'une définition positive, ça veut dire, voilà, il y a ça dans le domaine public. On peut dire que le domaine public est majoritaire. Effectivement, la plupart des textes qui existent sont soit entrés dans le domaine public, soit...
Donc, pour être clair, le domaine public, c'est quand il y a quand les droits patrimoniaux tombent par rapport aux droits d'auteur. Voilà. Quand oui. Après, donc en France, c'est 70 ans après la mort
c'est
de l'auteur.
C'est même pas le cas. Si par exemple, moi, je donne un exemple pour moi, le geste qui sauve, le bouquin où je raconte l'histoire du flacon, il est dans le domaine public et je touche les droits d'auteur. Donc voilà, il est dans le domaine public, mais je touche les droits d'auteur avec.
Si le domaine public permet de toucher les droits d'auteur, je pense que beaucoup d'éditeurs seront heureux parce qu'ils exploitent le domaine public.
Mais bien sûr, il a été édité, ce livre.
Tu touches les droits d'auteur sur une partie qui n'était pas dans le domaine public et puis tu l'as remis dans le droit d'auteur.
Le livre est mis dans le domaine public parce que n'importe qui peut le copier, éventuellement le modifier, le traduire, ça me demandait mon avis. Et même le publier, même le vendre, j'en ai rien à faire. Mais ceux qui le font, qui sont cool, en fait, me disent, on peut te reverser des droits. Donc, je peux...
Le don n'est pas interdit en France.
Mais c'est pas du don. Quand le livre est vendu à librairie, je regrette, je touche mes 10% ou mes 12% sur chaque exemplaire. Alors que le livre est bel et bien dans le domaine public. Donc, et c'est ça, c'est un des gros problèmes de la définition du domaine public. C'est qu'on peut mettre des ordres dans le domaine public et continuer à gagner sa vie avec. Et c'est justement ça que je défends. Moi, je pense que plus... qu'en mettant nos œuvres dans le domaine public, on peut gagner beaucoup plus qu'en ne les mettant pas. Et c'est une erreur des auteurs parce qu'ils ont peur. Ils se disent oui, on peut copier, ils vont pouvoir nous pirater nos textes et ça va nous freiner. C'est faux. Parce que si en le mettant dans le domaine public, ton texte il est traduit à l'étranger, il se propage, etc., au final, tu vas plus y gagner alors que tu vas plus y gagner sur le global. C'est une courte vue. D'avoir peur du domaine public.
Tu dis qu'il est dans le domaine public, d'accord, mais en fait, tu n'as pas donné l'exclusivité à ton éditeur. C'est une question de droit exclusif. L'éditeur, en général, réclame l'exclusivité pour non seulement le monde entier, parfois pour l'univers entier, quand on ira sur la Lune. Et ça, on peut toujours barrer dans le contrat. Si tu as barré dans ton contrat le fait que tu donnais l'exclusivité à ton éditeur, mais tu peux mettre à côté le livre à disposition de qui
le
veut.
Revenons, s'il vous plaît, excusez-moi. Revenons, avant de donner la parole au public, sur quelque chose qui me semble important. Et encore une fois, on est un peu loin de l'univers du numérique. On a bien parlé des droits patrimoniaux qui courent 70 ans après la mort de l'auteur. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, on comprend très bien, vous nous avez parlé des 3000, je ne sais pas ce que ça représente par rapport au nombre d'auteurs en France, 3000 qui vivent de leurs plumes, donc c'est à peu près rien.
Je dis que c'est une élite.
Voilà, donc on comprend bien que déjà il y a très peu de gens qui vivent des droits d'auteur. À quoi ça sert de faire vivre, que ça dure 70 ans après? Est-ce qu'il y a une logique à ça aujourd'hui?
Alors, ça, c'est tout à fait lié à la définition
du patrimoine,
du domaine public et la définition positive ou non du domaine public. On peut très bien dire la règle, c'est que sur la terre, la majorité des terres et des eaux est publique. La propriété est une exception dans le domaine public. On peut très bien dire que la majorité des hommes sont morts. et que la vie est une exception. On peut très bien dire que la majorité des œuvres sont dans le domaine public et que le droit d'auteur est une exception. On peut aussi, juste une question d'optique, faire l'inverse et dire il y a un droit de propriété qui est défini en France et le fait de limiter cette propriété sous prétexte qu'il s'agit d'une propriété intellectuelle à 70 ans, c'est une exception. Si vous avez une maison et que 70 ans, vous l'avez légué à vos enfants, et que 70 ans après, on vous dit mais elle est tombée dans le domaine public, vous ne serez pas content. Alors, je ne vais pas défendre les ayants droit. Je ne vais pas défendre les ayants droit.
Donc les ayants droit, c'est comme ça qu'on appelle les
alors, ayants droit, deux définitions. Celles qui concernent ici, ce sont ceux qui ont les droits après la mort, qui ne sont pas nécessairement les héritiers, mais ceux qui ont les droits après la mort de l'écrivain.
Et là où le débat devient peut-être un peu plus
et je ne suis pas là pour les défendre.
Oui, non, bien sûr, mais là où le débat devient un peu dingue, et ça, c'est un truc que tu as repris, Thierry, et dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est dans l'histoire, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, je crois que oui, un peu tout le monde, l'histoire du journal d'Anne Frank, c'est-à-dire une jeune fille qui est décédée du typhus après avoir écrit un journal dans les camps de concentration, 70 ans après sa mort, donc, donc et le 1er janvier 2016, son journal, donc en langue néerlandaise, devait rentrer dans le domaine public et les ayants droit ont fait valoir le fait que le père d'Anne Frank avait édité d'une certaine manière les textes de sa fille et que du coup, il se battait. Enfin, en gros, il y a une bataille juridique de ce qu'on appelle les ayants droit pour perpétuer et faire courir jusqu'en 2036, voire en 2050, les droits liés et les droits patrimoniaux liés à ce texte. En fait, la preuve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'univers des droits d'auteur aujourd'hui?
Non, mais ça, c'est les ayants droit. Les ayants droit, ils veulent. C'est un problème des ayants droit. Ils veulent continuer à exploiter la bête. Donc, l'astuce qu'ils ont trouvée, en disant le livre a été édité 20 ans après, en fait, elle peut être généralisée, étendue à tous les textes. Parce que dès qu'il y a une réédition d'un texte, il est corrigé, réédité, remis en page, etc. Et on peut utiliser la même astuce pour tous les textes.
Et puis après, il y a l'astuce de créer une marque.
Oui, on peut faire
autour
tout ce qu'on veut,
de l'auteur pour garder tout ce qui est lié.
Autour de n'importe quoi. Ouais. Autour de ce flacon aussi. Hein.
Quelle est la vision d'un auteur de ce genre de choses? Parce que quand on nous dit le pauvre auteur qui va mourir de faim, vous imaginez si on remet en cause le concept de. Voilà, si on ne défend pas les droits.
Ils meurent tous de faim, les auteurs. Il y en a 5000 en France, il y en a 3000 qui.
Et quand on voit des sociétés. Quand on voit les ayants droit d'Anne Frank qui font ça, on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Enfin, je ne sais pas si c'est pas ce que vous vous dites, moi c'est ce que je me dis.
Pour ce que je connais du dossier, et je l'ai moins fréquenté que vous, il y a deux problèmes différents sur le journal d'Anne Frank. Il y a d'une part le fait que c'est un journal manuscrit, si mes souvenirs sont bons, et donc que dans ces cas-là, la législation est différente. La législation néerlandaise, je ne la connais pas, mais les droits courent à partir de la première publication et pas à partir de la mort de l'auteur. Personnellement, je ne suis pas pour. Je n'ai pas à défendre les ayants droit. Ouais. La Société des gens de lettres le fera, moi, en tant qu'auteur. Je n'ai pas d'héritier direct et je ne me moque pas mal de ce que sera. Mes livres deviendront après ma mort. Ça ne me dérangera absolument pas s'il y a des inédits qui sont publiés, qu'ils soient ou non dans le domaine public. Ça ne me regarde pas. Mais là, il y a un problème juridique qui vient des livres non publiés. Et non pas des livres publiés. Donc on ne peut pas généraliser à partir de cela. Et puis, il y a le problème de l'édition, c'est ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure. À partir du moment où un érudit ou le fils d'Anne Frank publie, son père en l'occurrence, excuse-moi, le père d'Anne Frank publie, fait des modifications, il y a le droit d'auteur, des modifications. En l'occurrence, non, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Ouais, enfin, en gros,
il y a un travail de quelqu'un d'autre, un travail d'édition. Ben, ce travail est couvert à son tour par le droit d'auteur. Ça pose le problème, l'énorme problème des rééditions de textes dans le domaine public, qui sont à nouveau protégés par le droit d'auteur de l'éditeur scientifique, pas de l'éditeur technique, de l'éditeur scientifique. Mais ce ne sont pas jamais des droits exclusifs. C'est-à-dire que s'il y a une édition scientifique qui va comparer toutes les éditions de Crébillon fils, il y en avait 20 de son vivant, qui va trouver un texte fidèle, le plus fidèle possible à ce qu'on croit que Crébillon a voulu. Là, il y a un vrai travail de scientifique qui doit être protégé. Mais toutes les œuvres de Crébillon fils qui sont dans le même public pourront être reproduites gratuitement, indépendamment. C'est une question d'exclusivité du droit d'auteur.
Est-ce que quelqu'un a une question ? Non ?
Moi, si vous n'avez pas de questions, je peux parler d'un truc qui est important. On n'a pas parlé d'Internet, là.
Oui, du coup, j'allais y venir.
Et on n'a pas parlé du fait qu'on oublie que tout ça, c'est une technologie. Tu as dit que c'est un outil. Ce n'est pas un outil, Internet. C'est une erreur de croire qu'Internet est un outil. Donc moi, je dis toujours que c'est un territoire. C'est comme une carte qui relie des lieux entre eux. C'est un objet topologique qu'on peut explorer, qu'on peut étendre. Ce n'est pas un outil. Sur ce territoire, on peut construire des usines, on peut construire des services, on peut construire beaucoup de choses. Mais ça ne ressemble pas du tout à un outil, ce truc-là. Un marteau, il a une fonction ou quelques fonctions, on peut tuer des gens avec, on peut planter des clous. Internet, il n'a pas une fonction ou des fonctions qu'on peut lister. C'est le propre du numérique, c'est qu'on peut programmer toutes ces choses et on peut l'étendre à l'infini autant qu'on a de l'imagination. Donc c'est un espace. Hein. C'est un espace qu'on a créé qui est basé sur des technologies qui évoluent à toute vitesse. On est obligé de tenir compte de la physique de cet espace. C'est comme si nous, on pouvait dire, on va faire abstraction de la gravité. Tant qu'on n'a pas remis en question les équations d'Einstein, malheureusement, la gravité, on pèse. Donc, il y a certaines propriétés que le monde numérique a introduit qui rendent inapplicable le droit d'auteur.
C'est aussi juste, je peux te poser une question juste pas. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu Jean-Claude dire, moi, j'ai peur qu'il y ait des copies, 2000 copies qui circulent de mon livre, ou qu'une bibliothèque distribue à 2000 personnes en même temps une copie de mon livre, une copie numérique. Comment tu réagis, toi, donc, dans cette idée d'Internet, à ce type d'affirmation ?
Une des propriétés numériques, c'est de nous mettre dans l'abondance. Dans l'abondance, sur les contenus, c'est à l'infini. Donc, on peut pas, on va pouvoir. On pourrait juridiquement limiter le nombre de copies. On peut, par la loi, etc., par tout ce qu'on veut. Mais techniquement, on va essayer de faire des choses, mais on va toujours, on va se heurter à quelque chose de fondamental, c'est que des 0 et des 1, ça se copie. Donc
le 0 et les 1, pour être clair, c'est ce qui,
oui, c'est la
base du numérique.
Voilà, c'est la base. Donc, on ne peut pas ne pas copier ça. C'est facile à copier. Et ça coûte pas beaucoup d'énergie, ou peu d'énergie, un peu, mais peu. Donc il faut se projeter dans un monde où c'est une réalité, ça. Et à partir de là, ne cherchons pas à penser des lois qui ne s'appliquent pas à ça, essayons de trouver des solutions qui sont compatibles avec cet univers-là. C'est pour ça que je parle du dividende universel qui permettrait de rémunérer non seulement les 3000 auteurs, mais tout le monde, en fait, pas que nous, tout le monde, vous tous, là.
C'est pas un hasard si récemment le Conseil national du numérique, donc qui n'a rien à voir avec le revenu universel, ouais, ou le revenu minimum, enfin, c'est pas le. Voilà. A fait savoir au gouvernement qu'ils préconisaient ce type de revenu,
oui,
parce qu'ils ont conscience que le numérique est en train de changer véritablement la donne par rapport à l'emploi, par rapport à tous les univers, et qu'il faut trouver des solutions économiques.
Le fait d'être présent en ligne, on fait du travail déjà pour les sociétés comme Facebook, etc. Donc il y a plein d'idées diverses, on va pas faire la liste, qui permettraient de créer ce revenu-là, et qui effacerait déjà beaucoup de choses. Si tous les gens qui écrivent aujourd'hui, non pas uniquement ceux qui sont aux AGSA, ceux qui, comme toi et moi, on a la chance d'arriver à gagner de l'argent avec ça et à en vivre, ce serait ça qu'il faut faire, c'est que toutes les créations doivent être valorisées, et non seulement celles que le marché valorise. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'auteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il valorise ce que le marché a décidé de valoriser. Et tout le monde sait très bien que le marché, c'est pas forcément ce qui nous fait preuve de culture et
de micro devant.
Et qui est une preuve de quoi que ce soit, c'est une preuve que ça marche. Voilà, le marché, ça marche. Je pense qu'il faut, se mettre dans une perspective où on a un nouvel univers. Par rapport aux copies, aujourd'hui, on est en train d'inventer des technologies. Tout le monde connaît le P2P. Le P2P, ça permet de partager des fichiers. Le pair à pair, voilà. Ça nous permettait de. C'est ce que. Voilà, pour pirater les BitTorrent, etc. Moi, je mange depuis 20 ans, je me nourris au P2P et je continue malgré Adopi, etc. en temps, je reçois une lettre et je la mets à la poubelle. Voilà. Parce que on vit dans ce monde-là. C'est stupide de vouloir nous faire arrêter ça. Donc aujourd'hui, avec blockchain par exemple, on est capable de suivre. On va être capable de faire des systèmes où on peut suivre tous les transferts. Si par exemple tu mets un de tes textes dans un système de blockchain, de base de données de blockchain, chaque fois que quelqu'un va le transférer à une autre personne, on va pouvoir suivre. Donc on va pouvoir savoir comment ça se propage sur le réseau. Ça sera pas forcément, tu n'auras pas forcément de l'argent qui va revenir. Pourquoi pas ? On peut éventuellement faire un retour financier.
Avec la publicité notamment.
On va pouvoir faire beaucoup de choses. On va pouvoir traquer ce qui circule de pair à pair si on veut, si on met des technologies en place. Donc il ne faut pas avoir peur. Tu sauras que ton texte il a été lu, ouvert par 50 000 personnes ou par 10 000. Ce qui compte, c'est que voilà, ça va donner des étalons. Aujourd'hui, on ne les a pas. Mais là, on a les technos. Plutôt qu'en avoir peur, il vaut mieux les embrasser et essayer de les accepter.
Est-ce qu'on peut parler de ton... Je crois que c'est ton dernier roman. Il s'appelle One Minute, une minute, ouais, c'est ça ouais. Et tu l'as publié sur un site qui s'appelle Wattpad.
Ouais, mais alors...
Et ça, est-ce que c'est une expérience dans cet état d'esprit, donc de mise à disposition
oui, mais ça, l'idée, moi, j'aime bien... Aujourd'hui, comment on peut ouvrir notre atelier quand on écrit. Donc ça veut dire, c'est-à-dire, je suis en train d'écrire un livre et chaque fois que je publie un nouveau chapitre, je vous le donne, vous pouvez interagir et vous pouvez même me donner des idées pour écrire le suivant. Et je les prends et si je prends vos idées, je vous cite sur une idée d'un tel ou de plusieurs personnes. Donc ça, c'est une possibilité qu'offre le numérique et ça change les conditions d'écriture. Et pour moi, ça change l'écriture, du coup, ça change ce qu'on écrit. Et en tant qu'écrivain, pour moi, c'est important d'expérimenter des choses que ceux d'avant moi ne pouvaient pas faire. Et ceux d'après moi, ça ne les intéressera plus. Donc c'est à nous, aujourd'hui, écrivains d'aujourd'hui, on a des nouvelles possibilités, on les essaie, et on voit en quoi ça nous fait penser des choses différentes. Donc ça, c'est plus du côté de la littérature, mais c'est aussi du partage. Parce que pendant que je l'ai écrit, je l'ai donné, ce texte.
Et la première page, donc parce que c'est un livre, One Minute, donc de pages qui sont d'une minute chacune, c'est ça
360... J'aurais écrit 365 fois la même minute.
Voilà, ouais. Voilà la même minute, 365 fois. Et la première a été vue 200 000 fois, ce qui pour un...
Non, c'est pas ça. 40 000 fois la première.
40 000 fois, ouais. ce qui est pas mal pour... Bah oui, si c'était un livre,
oui,
ça serait
énorme. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, les auteurs, en plus, ont peur. Il faut voir quelque chose, c'est que nos revenus sont en train de se diversifier. Quand on donne des conférences, on est payé. Un petit peu, oui, mais des fois, bien souvent, quand je donne des conférences dans le privé, je suis très bien payé.
Les ménages, ça s'appelle.
Oui, non, mais on a des revenus qui viennent. Moi, mes revenus ne viennent pas que de droits d'auteur. Par exemple, sur quand j'ai écrit J'ai débranché, quand j'ai écrit le livre sur le flacon, Le geste qui sauve, on m'a demandé d'aider les gens qui faisaient des adaptations dans les autres pays. Donc, ils m'ont rétribué un peu pour ça. J'ai eu des droits d'auteur. J'ai fait des conférences. Donc, tout ça cumulé fait que les revenus arrivent de plus d'endroits. C'est un peu comme les gens qui font de la musique aujourd'hui. Ils vendent un peu encore des morceaux, des MP3, mais ils vont donner des concerts, etc. Donc, nous, les auteurs, on n'a plus un seul canal de rétribution. On en a plein qui arrivent. Et c'est compliqué. Si on passait par des anciens contrats d'édition, ça serait compliqué parce qu'il faudrait que tout passe par les éditeurs. Ça serait le bazar.
Alors, juste une, puisque vous n'avez pas... Oui, il y a une question. Ok, deux questions, trois questions. Ah d'accord, je peux faire mon anecdote quand même ou pas? Ouais, allez-y, le temps que le micro arrive. Une anecdote, donc quand j'ai commencé à suivre l'Internet, le numérique, etc., puisque tu disais qu'on n'avait pas parlé d'Internet, une des premières choses qui m'ont frappé, c'est que les défenseurs des droits d'auteur, alors pas forcément la littérature, plutôt les films, etc., préconisaient exactement les mêmes choses que les dictatures pour surveiller le... Mais exactement, c'est-à-dire qu'ils militaient pour les mêmes technologies pour surveiller le réseau. Les dictatures, évidemment, pour éviter que des oppositions émergent et s'expriment, et les droits pour surveiller ce qui passait dans les tuyaux. Et c'était et je me suis dit, c'est quand même étrange que voilà. Donc c'est pas aussi simple et parfois c'est frappant qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la défense de.
On y est en France, ça, il faut pas.
Oui, bon. Adopi, c'était aussi de couper l'accès à Internet pour les gens, ce qui est quand même incroyable. Pour défendre la création, on va couper l'accès.
Je ne vais pas défendre Adopi.
Oui, bien sûr, vous n'allez pas défendre Adopi, évidemment.
Je ne l'ai jamais fait.
Question. Oui.
Oui, alors ma question s'adresse surtout à Thierry Cruzet, pardon. Donc, votre position consiste globalement à libérer la création du droit patrimonial, surtout. Mais comment envisagez-vous le droit moral sur Internet? Comment vous sentez, par exemple, si votre œuvre est appropriée intellectuellement par quelqu'un d'autre, voire détournée par quelqu'un d'autre, parce que finalement, sur Internet, on peut prendre et modifié. Donc, effectivement, vous ne touchez pas droit d'auteur monétaire, mais qu'en est-il de l'intellect, de la paternité intellectuelle ?
Deux choses. Je peux toucher droit d'auteur. Je peux donner et toucher droit d'auteur. Ce n'est pas incompatible. Et heureusement que ça marche comme ça. Heureusement que ça marche comme ça, qu'on peut donner et qu'il y a des gens qui trouvent, qui même, ils récupèrent la version gratuite, ils disent c'est pas mal, je vais payer l'auteur. Je vais payer l'auteur. Ça arrive, c'est pas ils ne sont pas innombrables ceux-là, mais bon, ceux qui peuvent le faire le font. Moi j'estime que c'est comme ça que ça peut marcher. Quand quelqu'un me pirate, je suis super content. Pour savoir si un auteur a du succès, vous regardez combien de livres sont piratés de lui. C'est pas compliqué. Hein. Les auteurs qui ne sont pas piratés, c'est que personne ne les lit. Parce que dès qu'un livre est piraté, ça veut dire qu'il est un peu lu. Ça veut dire que les gens l'aiment et le partagent.
Pirater, ça veut dire juste...
On le copie, on le distribue sur les réseaux, les torrents, etc. Moi, quand j'ai vu que J'ai débranché était piraté...
Débranché, pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre que tu as écrit à un moment où tu as coupé l'accès à Internet pendant quelques mois.
Donc, il est paru chez Fayard, et j'ai eu beaucoup de presse là-dessus, et j'ai eu beaucoup plus de piratage que de ventes. Bon, mais c'était comme ça. Et si quelqu'un prend un de mes textes et le modifie pour en faire autre chose et qu'il gagne une fortune avec, je serai encore fier. Ça me suffit, quoi. Ça veut dire que ça va libérer des opportunités derrière. Si quelqu'un prend un de mes textes et fait un succès avec, ça veut dire qu'il va m'ouvrir les yeux, il va me donner des possibilités que je n'avais pas vues. Et ça me fait plutôt plaisir qu'autre chose.
Oui, mais la question, ce n'est pas ça. Si sous votre signature, à partir d'un de vos textes, apparaissent des idées épouvantables, façon antisémite, raciste, tout ça, avec votre nom, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous le prenez ?
Mais c'est de l'usurpation d'identité. Ça n'a rien à voir avec le fait que je libère une heure. On peut le faire avec n'importe quel...
C'est le fond du problème pourtant.
Non, parce que c'est super facile à régler ce problème-là. Moi, quand je mets une œuvre, je mets à disposition d'une œuvre, on a la version que j'ai mise à disposition. Il suffit de faire une différence. C'est super facile aujourd'hui avec de l'informatique de montrer les différences. Ça prend 2 secondes. Donc, j'ai aucun souci avec ça pour démontrer que moi, ce que j'ai dit et ce que cette personne veut me faire dire. C'est très simple, il me semble.
Bon, ça, il y a le droit de citation aussi, j'imagine, qui est encore autre chose. Enfin, et puis, je pense que les enjeux de réutilisation s'appliquent plus au cinéma et à la musique, peut-être qu'à la littérature quand même. Merci d'avoir reprécisé la question, ce que j'allais oublier de faire. Il y avait monsieur derrière et monsieur ici. Ok, allez-y.
Sinon, c'est une autre question qui n'a rien à voir. C'est par rapport au fait que tous les auteurs peuvent être rémunérés. Où vous trouvez les fonds pour pouvoir payer tout le monde ? Et est-ce que ça risque pas de multiplier le nombre d'auteurs par 10 ou par 100 du fait que tout le monde soit rémunéré ?
Alors, juste une précision par rapport à ce que disait Thierry, c'est pas du tout tous les auteurs, ce revenu minimal, revenu universel, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui disent il va y avoir tellement peu d'emplois salariés dans les années à venir qu'il faut trouver une solution collective. Et une solution collective, ça peut être le revenu universel. Et en France, accessoirement, il a été chiffré à, je crois, combien ? Milliards par an ? Non. À 825 euros, mais il a été chiffré à 8, 16, 40, je ne sais plus, le chiffre est sorti tout récemment, milliards d'euros par an. Ouais. Mais Thierry, tu peux quand même répondre.
Oui, il a répondu pour moi. Le dividende universel, ce n'est pas pour les auteurs, parce qu'en fait, je pense que dans la société numérique, on est devenus tous des auteurs. On est tous des créateurs, un ou un autre. Il suffit d'aller sur Facebook pour commencer à poster des trucs, on est des auteurs. Alors, ça vole pas forcément en haut, mais on est des auteurs. Moi, je me refuse à dire il y a un grand génie et puis il y a les petits nains. On est tous des auteurs, on est tous des créateurs. Donc, ce revenu d'existence, il est lié au fait qu'aujourd'hui, on assiste à une concentration des revenus. On voit les Facebook, etc. sur le net, et ça va ne faire que simplifier. Il y a quelques acteurs qui accaparent les revenus, et il n'y a plus d'argent qui circule dans la société, donc les gens ne peuvent même plus se payer des livres. Donc il faut trouver un moyen de réoxygéner la société, et il y a il y a des dizaines de théories économiques différentes pour arriver à financer ça. Par exemple, en France, il y a je ne me rappelle plus le nom de l'économiste qui travaille là-dessus, ça risque de me revenir, il a estimé que si on répartissait les aides en automatique, le RSA, etc., etc., on est à 900 euros déjà en France. On pourrait verser à 900 euros à tout le monde sans vraiment changer grand-chose dans notre système.
Et la différence donc avec les RSA ou les revenus minimaux actuels, c'est que c'est inconditionnel. C'est-à-dire qu'on le touche automatiquement, appartement on est citoyen. Voilà.
Mais
c'est un débat qui est en train d'émerger, mais qui est un peu loin du sujet d'aujourd'hui, mais qui le rejoint.
Mais qui est lié parce qu'il faut trouver une solution. Quand on dit qu'il faut que la copie est inévitable, il faut qu'on ait une manière inévitable de rémunérer.
Faisons-le et puis refaisons le débat.
Mais faire le débat.
Non, mais c'est en même temps.
Faisons-le. Moi, je suis 100% pour la possibilité d'avoir 900 euros par mois sans rien faire. Et je suis d'accord, si je les ai, à publier gratuitement mes œuvres, si je trouve un éditeur qui accepte d'engager les fonds pour le faire sans être rétribué. Allons-y. Mais tant que nous n'avons pas ce revenu minimal, il faut que chacun se débrouille pour avoir un revenu. Et je
c'est pas possible aujourd'hui. C'est toi-même qui l'as dit. Tu as 3000 personnes qui ont un revenu. Je m'en fiche, moi, des 3000.
Excuse-moi, mais les 97 000 autres, ils ont un autre boulot. Ce n'est pas des gens qui sont dans la pauvreté. C'est des gens qui gagnent leur vie autrement que par le droit d'auteur.
Je vais dire un truc, mais ils gagnent quand même leur vie. Sur les 3000, il y en a beaucoup qui sont profs. Et qui sont doublement payés.
Non, aucun.
Il n'y en a aucun qui sont profs.
Aucun dans les 3000 qui sont profs, puisque le critère des 3000, c'est ceux qui ont leur sécurité sociale et la retraite uniquement par le droit d'auteur.
OK. J'ai vu le micro, madame. Et puis, il y avait monsieur qui voulait poser une question derrière. Je ne vous ai pas oublié. Oui, allez-y, madame.
Une chose, je vois que le piratage, ça ne vous fait pas peur. Mais il faut vous dire que la technique va changer. Que maintenant, bon, pour le moment, c'est le Wi-Fi, ce qui veut dire wireless fidélité, ce qui veut dire que c'est les ondes radio, c'est les ondes électromagnétiques, hein, qui sont assez décriées d'ailleurs. Hein. Et ça sera remplacé par la Li-Fi. La Li-Fi, ça veut dire light fidélité. Et light, c'est des LED, c'est des ampoules, et on ne pourra pas les pirater.
C'est toujours de la radio, hein. Ça reste des ondes électromagnétiques dans tous les cas, ça ne change pas.
Alors, la communication se fait par...
Alors juste pour préciser, donc l'Internet, ce sont des câbles, des serveurs, des satellites, etc. Le Wi-Fi, c'est quand l'Internet est arrivé par câble jusqu'à chez vous, ou parfois, en gros c'est ça, et que vous allez le redistribuer chez vous avec un émetteur radio qui va permettre de connecter tous vos
appareils. Et maintenant, ça va être par LED.
Mais ça n'a rien à voir avec le piratage, hein, vous savez. C'est-à-dire que la manière dont l'Internet est redistribué chez vous, ça ne change rien sur le piratage.
On ne peut pas pirater.
On ne peut peut-être pas pirater le réseau, mais on peut très bien s'en servir pour pirater des contenus. Ça ne change rien. Le réseau ne change pas de nature, c'est pas parce qu'il est distribué chez vous par des lampes qu'il change de nature. Alors, mais bon, en tout cas, ça peut être intéressant. Le Li-Fi, je ne connaissais pas. Il y avait monsieur qui voulait poser.
C'est les LED qui communiquent.
Ça ne changera rien à la possibilité de pirater. Les seules choses qui peuvent changer la possibilité de pirater, c'est si on introduit dans le réseau des petits gendarmes qui regardent tout ce qui passe dedans. Et c'est ce que font, par exemple, les Iraniens, les Chinois, etc. Mais on ne souhaite pas que ce soit introduit dans les réseaux.
En tout cas, c'est présenté déjà comme un atout par rapport au Wi-Fi.
Bon,
On dit que ça ne peut pas être piraté.
Oui, mais c'est le piratage du réseau, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir utiliser votre Li-Fi pour se connecter à Internet, c'est ça, quoi, en gros.
Si c'est la lumière qui traverse les murs, oui, mais si c'est suivant la fréquence, ça traverse. Donc.
Alors, oui, c'est notre...
Merci. En fait, une remarque et un commentaire. Donc, la remarque, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les discussions sur les aspects légaux sont un peu ceux qu'on a eus sur le logiciel libre il y a 10 ans, où en fait, il y a aussi eu des débats sur les principes juridiques sous-jacents, où on s'est rendu compte que les licences s'appuyaient sur le droit d'auteur, que globalement elles étaient compatibles, qu'il y avait dans la législation une notion d'œuvre collective qui sécurisait en fait les questions de partage, et que donc finalement il n'y avait aucun problème. Et j'ai l'impression qu'on a un peu le même genre de débat aujourd'hui, qui se base aussi sur le droit d'auteur. Alors les licences, on les a. On a les Creative Commons, donc il y avait une question sur les modalités de partage. Un auteur peut tout à fait sélectionner une licence, interdire les œuvres dérivées, autoriser les œuvres dérivées, imposer un partage à l'identique, donc interdire un usage commercial de l'œuvre. Donc il y a toute une série de modalités pratiques, juridiques, qui existent maintenant depuis des années. Donc pour moi, le problème légal, en tout cas de ce point de vue-là, j'ai un peu de mal à voir où il se trouve. Par contre, j'avais une question, c'est... Vous avez évoqué plusieurs fois les lourdeurs en fait en termes d'édition, en expliquant qu'il y avait toute une série de couches et de surcouches qui s'étaient rajoutées du côté des maisons d'édition et qui faisaient qu'il n'y avait plus de contact direct avec la personne qui prend la décision. On parle régulièrement d'auto-édition, avec des avis qui sont extrêmement partagés. L'auto-édition est un outil supplémentaire qui est fourni aux auteurs pour dire voilà, j'écris une œuvre, je la mets sous Creative Commons sur Internet, mais je vais également la diffuser au format papier. Je veux être libre de le faire à mes conditions sans m'encombrer d'un éditeur officiel. Donc, en théorie, ça paraît bien. Donc, je suis intéressé d'avoir l'avis des deux personnes qui sont là sur cette
question.
Moi, je peux répondre à ça. Aujourd'hui, en France, l'auto-édition n'est pas très grande. Aux États-Unis, je pense qu'en ce moment, c'est le problème de 20% du marché, que ce soit en print, en papier ou en électronique. Donc, c'est du moment que les auteurs sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent s'emparer de la technologie, c'est en train de se développer. J'ai vu encore aujourd'hui une étude, la moitié des best-sellers, de la liste des best-sellers du New York Times l'année dernière, il y a 50% qui étaient auto-édités. Aux États-Unis, quand vous voulez auto-éditer un texte, des boîtes comme Amazon permettent de placer des livres imprimés chez tous les libraires. En France, on ne peut pas le faire encore. En s'auto-éditant, placer des livres chez les libraires, c'est la galère. Il faut passer par un éditeur si on veut faire ça. On peut mettre ces livres sur les plateformes de vente en ligne, mais on ne peut pas les mettre physiquement chez les libraires. Le jour où ça se produira en France, où il y a des acteurs qui vont nous permettre de faire ça, on pourra commencer à voir vraiment le marché exploser de l'auto-édition. Aujourd'hui, en France, les gens s'auto-éditent presque exclusivement numérique.
Oui, l'auto-édition est autre chose, ça existe et c'est bien que ça existe. Lorsqu'on dit on ne peut pas mettre chez les libraires, soyons clairs, les libraires n'acceptent pas des livres auto-édités, mais il n'y a rien qui interdit.
Oui, non, mais à la main, je veux dire, là c'est automatique.
Oui. Il n'y a rien qui interdit. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une revue littéraire qui était auto-éditée. J'allais chez les libraires de Liège, en l'occurrence, et je leur demandais de les mettre sur leur table. Et ils acceptaient. Ce n'est pas une interdiction. C'est effectivement le fait que les libraires, pour l'instant, n'ont déjà pas de place pour mettre l'ensemble des productions de l'édition en valeur et qu'ils refusent des livres auto-édités. C'est leur problème. L'autopublication est une possibilité qui veut dire autre chose, qui veut dire d'abord qu'on n'est pas dans un système entrepreneurial, donc on ne peut pas se demander à soi-même une avance sur droit, donc ce n'est pas un métier. Ça veut dire qu'il faut avoir les fonds au départ pour s'auto-éditer avec l'espoir que ça rapporte. Ça veut dire qu'on n'a pas le regard de l'éditeur, et même si le regard de l'éditeur en ce qui me concerne est surtout de l'ordre de la virgule, il y a des livres pour lesquels effectivement le regard de l'éditeur peut être un petit peu plus important. Éditer, c'est pas seulement prendre un livre et le publier, c'est tout un système éditorial derrière. On le refuse, on l'accepte, on peut le refuser, mais pour moi, je pense que c'est un système qui a encore sa pertinence sur beaucoup mais de livres. Et enfin, le système éditorial permet de défendre un livre. Alors, je sais que l'on peut rêver d'être piraté, mais j'ai vu aussi beaucoup d'auteurs, soit autopubliés, soit qui avaient repris leurs droits, pleurer de voir leur livre piraté et de ne pas pouvoir le défendre parce que c'est cher d'aller au tribunal pour défendre un livre qui est piraté alors que c'est du ressort de l'éditeur. Donc il y a tout ça. Ce sont deux modèles qui existent. Le modèle de l'autopublication est un modèle qui est adapté à certains cas. Le modèle de l'édition est adapté à d'autres cas. Fifty Shades of Grey,
le livre le plus vendu de tous les temps, a été autopublié.
Donc, oui, et puis il est passé par l'édition.
Après,
oui.
Avec un code. Oui, mais une fois qu'il y a des centaines de milliers d'exemplaires qui ont été distribués.
Bien sûr. Donc c'est un modèle qui existe, c'est un modèle que j'approuve lorsqu'il répond aux besoins.
On va conclure. Merci, merci à tous les deux, messieurs. Merci également au public. La prochaine date de controverse,
c'est le 4 avril. Sur le transhumanisme.
Le 4 avril sur le transhumanisme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le transhumanisme. Non, Thierry ? Non ?
Ouais. Bon, c'est les gens qui veulent un peu se transformer eux-mêmes. Le postulat de base, c'est que leur corps leur appartient et qu'ils estiment qu'ils peuvent y faire subir toutes les choses les plus farfelues qu'ils veulent. Donc, par exemple, se greffer des trucs.
Cette idée qu'avec la technologie, l'homme va tellement se dépasser que peut-être un jour, il va dépasser l'humanité et devenir... éternel, par exemple. Il y a des gens qui pensent que, avec toutes les technologies actuelles, c'est tout à fait possible, hein, on va tellement pouvoir réparer ou anticiper les problèmes que l'homme va devenir potentiellement éternelle. Voilà. Donc, prochaine controverse,
le 4 avril.
Le 4 avril pour parler de transhumanisme. Merci à toute l'équipe technique, merci à toute l'équipe éditoriale des controverses. Merci à vous. Ouais. Et merci à nos deux invités. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions qui étaient très pertinentes. Merci. Au revoir.